au Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Eh bien, bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouverons chaque vendredi de 18h à 19h. Aujourd'hui, c'est donc un peu particulier car nous sommes en direct dès 17h30. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi dès la fin de l'après-midi. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios RCN associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Qui est en studio aujourd'hui? Je fais rapidement un tour de table, sachant que chacun aura l'occasion de mieux se présenter tout à l'heure. Je suis donc Lucien, bénévole militant à Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc, également de Micro Rebelle. Luc est salarié à Micro Rebelle.
Salut Lucien.
Enfin, Mathieu est également présent. Mathieu est lui aussi adhérent et militant à Micro Rebelle.
Salut.
Nous accueillons un invité. Il s'agit de Antoine Jean, porte-parole de la Confédération Paysanne, avec qui nous entretiendrons à propos du quatrième procès, d'ailleurs je rectifie, des militants opposés à la ferme des 1000 vaches, et également à propos du projet de loi Agriculture et Alimentation qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Après ces rapides présentations, nous vous proposons aujourd'hui une revue de presse. Nous avons choisi deux angles d'attaque. Tout d'abord, la presse locale. Dans l'avenir de l'Artois. Rappelons que l'avenir de l'Artois est un hebdomadaire paraissant le jeudi. Nous avons noté un article sur Fabrice Jamard, élu CGT à la Française des Mécaniques à Douvrin, qui vient de remporter une victoire importante contre son employeur. Le groupe Peugeot va devoir indemniser des salariés au titre des heures travaillées de nuit. 45 dossiers ont été déposés au prud'homme de Béthune et au final, la Cour de cassation donne raison au syndicat. Une autre brève, toujours dans l'avenir de l'Artois, signale le fait que la commune d'Avion est aux côtés des habitantes et habitants pour le refus des compteurs communicants Gaspard pour le gaz et Linky pour l'électricité. Signalons enfin, puisque nous recevons aujourd'hui Antoine Jean, porte-parole de la Confédération Paysanne, une double page sur la 23e édition de Terre en Fête, avec notamment une interview de Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre d'Agriculture. Jean-Bernard Bayard affirme notamment « Je suis paysan, fier de mon métier ». Pas sûr que Antoine Jean et Jean-Bernard Bayard aient la même définition de ce qu'est un paysan. Nous avons également feuilleté La Voix du Nord, édition Lens-Liévin, Hénin-Carvin, ces derniers jours. Plusieurs articles sont consacrés au magasin Carrefour. une dizaine de magasins Contact et Contact Marché sur le territoire, des magasins menacés de fermeture d'ici au 30 juin. 56 au total sur le territoire des Hauts-de-France. Les salariés interviewés signalent que les 256 millions d'euros prévus pour les actionnaires auraient pu être reversés pour le financement du plan sauvegarde de l'emploi, le PSE. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce conflit sur microrebelle.fr. La Voix du Nord ne se distingue pas forcément pour son zèle à relayer les conflits sociaux. On a néanmoins une brève sur l'inquiétude des syndicats de Bridgestone à Béthune après une semaine de chômage partiel. À noter tout de même cet article concernant le conflit à la SNCF avec l'initiative de cheminots de Douai et leurs familles. Ils ont escaladé le terri de Sainte-Henriette à Dourges au pied de l'autoroute A1 pour déployer une banderole « Sauvons notre chemin de fer ». L'article donne la parole à plusieurs manifestantes et manifestants en pleine lutte contre le démantèlement du service public ferroviaire. Autre journal local, pas sur le bassin minier, mais dans le Boulonnais. Nous évoquons la mouette enragée et son numéro 35 qui vient juste de sortir. Dans ce numéro, la mouette enragée se propose de mener des enquêtes ouvrières, une pratique reposant sur le questionnaire et appelant en retour une collecte de témoignages. C'est un dossier passionnant. On peut retrouver la mouette enragée sur son site, lamouetteenragée.noblogs.org. Sans entrer dans le détail, signalons également le journal régional Labrique et son dossier consacré à l'aménagement spatial des villes avec gentrification, approfondissement des inégalités et contrôle social exacerbé. Nous y reviendrons prochainement sur Micro Rebelle. Et nous terminons cette revue de presse locale avec l'hebdomadaire Liberté. Le journal régional communiste évoque la marche pour la dignité ce samedi 9 juin. Des centaines d'habitants et habitantes des Hauts-de-France déferleront sur Paris pour un déjeuner sur l'herbe, pacifique et motivé. À cette occasion, les parlementaires communistes déposeront à Matignon 10 propositions pour la région, concernant notamment la santé, le pouvoir d'achat, l'emploi, le développement économique. Comme l'avenir de l'Artois, Liberté consacre un cahier central au festival Terre en Fête, ce week-end, à Tilloy-les-Mauflaines. Et comme l'avenir de l'Artois, Liberté interviewe Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre d'agriculture. Par ailleurs, le dossier évoque d'autres expériences, notamment en circuit court, en boulangerie ou encore dans la vente directe de volailles. Un dernier article, enfin, est consacré au blocage des augmentations des retraites agricoles par le gouvernement. Après la presse locale, nous avons choisi de faire un petit tour d'horizon de la presse qui est disponible au LAG, le lieu autogéré du bassin minier. C'est une presse alternative qui comporte de nombreuses revues. Nous en sélectionnons aujourd'hui une toute petite partie. Tout d'abord, la revue Silence, revue de l'écologie, des alternatives et de la non-violence. Silence consacre son dossier du mois au vélo militant. Et c'est un dossier intitulé « Rouler pour des idées ». Cet été, en effet, ce sera la 11e édition de l'Alter Tour. L'Alter Tour, en vélo donc, c'est l'occasion de découvrir qu'il est possible d'agir autrement que ce que l'on a l'habitude de voir. L'Alter Tour, ça permet de se rendre compte que ça bouge un peu partout en France. Et ça permet de rencontrer plein de gens d'âge et de professions différentes qui sont dans la même démarche de changement. Dans le dossier de Silence, on a par exemple un intervenant qui s'exclame « L'Alter Tour, ça devrait être remboursé par la Sécu ». Concernant l'Alter Tour 2018, de nombreuses étapes sont ainsi prévues entre la Bretagne, les Hauts-de-France, la région parisienne et l'Est de la France. Tout ça est à découvrir dans le dossier de ce Silence du mois de juin, disponible au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. Une autre revue, c'est le mensuel Alternative Libertaire, qui consacre de nombreux articles à l'actualité sociale et politique. L'édito revient notamment sur la mobilisation des cheminots et cheminotes suite à la consultation des salariés à propos de la réforme ferroviaire. Un extrait. 94,97% de contre avec une participation importante de 61,15%. Mais après, ce résultat prouve l'impopularité de la réforme parmi les salariés du rail. Il démontre également que malgré le niveau de grévistes relatif, la lutte est parfaitement légitime auprès des salariés. Mais ce résultat souligne également les difficultés des stratégies mises en œuvre. D'une part, le gouvernement de technocrates macronistes n'a que faire de la popularité de la réforme. La terrible répression menée contre les universités en lutte ou à Notre-Dame-des-Landes souligne la logique mise en œuvre. Des réformes impopulaires imposées par la violence. La légitimité de telle ou telle réforme n'est plus la question, puisqu'aujourd'hui seule domine la force. D'autre part, cette stratégie impulsée par la direction de la CGT masque mal la principale difficulté du mouvement, le recul de l'auto-organisation. Ce recul est en partie provoqué par la stratégie de grève perlée qui ne permet pas aux salariés d'impulser leur propre rythme de mobilisation. La légitimité ne suffit pas face à un tel pouvoir. Elle n'est pas une fin, mais elle doit être un instrument au service du mouvement réel, celui de la mobilisation des indécises et des indécis, des prudentes et des prudents, dans l'affrontement social. Autres articles de cette alternative libertaire, un article intitulé « Collectivité, désengagement de l'État, un vrai scandale, une fausse excuse ». En résumé, depuis plusieurs années, on voit apparaître sur le fronton des mairies, d'hôtels de département, à l'entrée des crèches ou des écoles, des banderoles revendicatives réclamant davantage de moyens. Mais régulièrement, elles ne sont pas faites par les personnels en colère, mais par leurs employeurs, les collectivités territoriales. Et parfois, derrière le vernis revendicatif des collectivités, se cache l'exploitation des personnels et du mépris des usagers. Article à suivre dans ce numéro d'Alternative Libertaire. Alternative Libertaire revient ensuite sur l'occupation de la fac Tolbiac à Paris 13, avec un bilan critique vu de l'intérieur par un militant communiste libertaire. Signalons enfin, en vrac et dans le désordre, des articles sur la collecte de données par Facebook, sur l'extinction des abeilles et la survie de l'humanité, sur les femmes, premières victimes de la casse des services publics, sur les enjeux de la nouvelle rupture conventionnelle collective, sans oublier des articles sur la situation internationale, par exemple au Chili ou au Rojava, et des articles culture, notamment sur le dernier film de Yanis Yoluntas, « L'amour et la révolution ». Rappelons que Yanis Yoluntas a notamment réalisé le film « Ne vivons plus comme des esclaves ». Voilà donc en synthèse le contenu de cette alternative libertaire du mois de juin 2018, également disponible au LAG de Liévin. Eh bien, c'est maintenant l'heure d'écouter la chronique de Mathieu. Mathieu est donc adhérent de Micro Rebelle et il est lycéen au lycée Henri Darras de Liévin. Alors Mathieu, ta chronique aujourd'hui ?
Notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est attelé à des tâches plutôt futiles. L'interdiction du téléphone portable en primaire et au collège, ainsi que le retour de l'uniforme. Camoufler les inégalités ne le fera malheureusement pas disparaître, et il semble que le Blanquer préfère monopoliser le débat public avec des réformes futiles, plutôt que de se confronter aux critiques qui lui sont faites. De plus, il veut instaurer à tout niveau un vade-mecum de la laïcité, proposant notamment l'interdiction du port de jupes longues de couleur sombre. L'islamophobie et le sexisme assumés, c'est ça la politique du gouvernement qui se dit laïque. La mobilisation des lycéens continue. Hier était une journée d'action au bilan mitigé en province, mais meilleur sur la capitale. Malgré le déclin, la répression policière est toujours présente. Un rendez-vous au tribunal de grande instance de Paris est donné le 15 juin prochain, en soutien aux lycéens impliqués dans l'occupation du lycée Arago de Paris. Le coût de la vie étudiante va encore augmenter. 16% de hausse sont annoncées notamment à cause de la mise en place d'une nouvelle taxe, la CVE, contribution à la vie étudiante. La FAGE et le SGEN, affiliés à la CFDT, couvrent le gouvernement sur cette décision honteuse. Moins d'impôts et moins d'aide, la précarisation des jeunes semble être la direction que prend la politique du gouvernement. Pour finir, une blague de mauvais goût de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui tweet « À ce jour, 73,5% des candidats ont eu une proposition, soit environ 5 900 candidats. À cette époque, l'année dernière, aucun candidat n'avait eu de réponse avec APB. En effet, l'année dernière, APB n'était même pas encore ouvert. Le gouvernement prend vraiment les jeunes pour des idiots. »
Pause musicale sur Micro Rebelle. Un sound system venu des steppes sibériennes, ça donne une espèce endémique de reggae dub. Ça s'appelle Culture Horn feat. Med Dread et le titre Rootsman Dub.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Comme annoncé dans le sommaire, nous allons maintenant parler du procès de la ferme des 1000 vaches qui a eu lieu le 31 mai et de la loi agriculture et alimentation avec Antoine Jean. Antoine, bonjour.
Bonjour.
Tu es éleveur de chèvres et de vaches laitières, producteur de fromage et enfin porte-parole de la Confédération paysanne pour le Nord-Pas-de-Calais.
Nord-Pas-de-Calais, oui.
Voilà, donc je vais me permettre un bref résumé des événements récents et locaux. Le 31 mai dernier, à Amiens, s'est tenu le procès des militants de la Confédération paysanne pour déterminer les sanctions financières infligées suite aux dommages causés à la ferme-usine des 1000 vaches. Alors que les opposants tentent de lancer l'alerte sur le modèle agro-industriel et ses dangers, ils estiment que la disproportion des sanctions réclamées équivaut à une manœuvre pour museler l'opposition. Procès qui a d'autant plus de retentissement que le 30 mai dernier a été publié les mesures de la loi agriculture et alimentation. Petit rappel des faits. L'affaire des 1000 vaches a commencé il y a 4 ans quand des militants de la Confédération paysanne investissaient au petit matin le chantier de la ferme-usine de Bugny-Saint-Maclou près d'Abbeville dans la Somme pour déboulonner certaines machines comme un compteur à lait et les présenter au ministre de l'Agriculture et de l'Écologie. Les paysans agissent à visage découvert, rien n'est cassé, il s'agit d'une action symbolique, pas d'un saccage. Pourtant, ils seront interpellés par la gendarmerie, d'abord après l'action pour un contrôle d'identité, puis à l'issue d'une rencontre avec les ministres Le Foll et Royal à Paris le jour même, mais cette fois pour une garde à vue. Aujourd'hui, la ferme des 1000 vaches demande pour ce déboulonnage 140 000 euros d'amende de dédommagement. Lors de ce troisième procès en appel, verdict le 13 septembre. Tout d'abord, Antoine, comment s'est déroulé le procès ?
En fait, le procès, là, on est au bout de tout un système judiciaire qui s'est mis en place là depuis 2014, suite aux actions qu'on a pu mener sur... pour nous, c'est pas une ferme, c'est une usine. Et toutes les actions qu'on a pu mener contre l'industrialisation de l'agriculture et l'industrialisation surtout de l'élevage laitier. Donc là, c'est le bout, c'est au civil, c'est Ramery qui demande des dommages et intérêts face aux actions. Donc 2013, 2014, il y a eu 4 actions exactement sur le site de Druca, l'usine des 1000 vaches, et puis aussi sur au siège social de Ramery en septembre 2013. Donc au départ, ils demandaient 250 000, puisque les militants de la Confédération paysanne ont été condamnés, certes légèrement, en 2015, suite à ces actions. Donc ils étaient en droit d'aller chercher au civil des dommages et intérêts. Ils demandaient 250 000 euros, et les experts et les avocats se sont mis d'accord sur le chiffre de 140 000 euros. Bien sûr, nous on conteste, puisque c'était des actions, bien sûr, symboliques de démontage et non de saccage, comme on a bien voulu le faire croire à tout le monde, quoi.
Et alors, comment ça se profile ? La Confédération paysanne pense qu'ils vont être condamnés en septembre à payer justement ces 40 000 euros, ou alors est-ce qu'il y a encore peut-être un espoir ?
Ben justement, on pensait que c'était un peu plié, mais ça a été rappelé. Moi, j'étais pas à l'audience, j'étais à l'extérieur sur un débat sur l'industrialisation de l'agriculture. Mais ça a été rappelé par les avocats, et l'avocat notamment de Ramery a bien eu des difficultés et s'est un peu embrouillé dans ce qu'il demandait. Et notamment, par exemple, il demandait 4 pneus crevés sur le 4x4 de M. Ramery, alors qu'il n'était pas sur le site ce jour-là, quoi. Donc on sent bien cet acharnement. Il y a eu condamnation, et derrière, c'est Ramery, enfin surtout ses héritiers, puisque Ramery n'est plus là, d'aller chercher et de se faire vengeance par rapport à toutes les actions qu'on a pu mener, et surtout le retentissement que ça a pu avoir, puisque si la Confédération paysanne n'aurait pas mené ces actions, on n'en parlait pas, on parlait pas de cette usine et les projets qu'il y avait derrière, puisqu'il faut se rappeler que Ramery, dès 2012, annonçait qu'il voulait faire une ferme-usine modèle et en développer 20 ou 30 en France. Et donc, ça en était fini du modèle que nous on défend, c'est-à-dire le modèle à taille humaine, des petites fermes, des fermes familiales. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis aussi à bouger, quoi.
Alors au départ, c'est quoi exactement les objections de la Confédération paysanne pour s'opposer à cette ferme qui par ailleurs revendique de participer à une forme de transition écologique puisque c'est aussi un méthaniseur. Donc voilà, une ferme qui ou une usine qui s'habille en vert. Et quelles sont les objections globalement de la Confédération paysanne ?
En premier lieu, on est contre le fait qu'un industriel qui est Ramery, qui a fait fortune dans le BTP, et notamment avec des fonds publics, hein, puisqu'il répond en permanence à des appels de chantiers publics, s'accapare des droits à produire, s'accapare des terres sur un territoire. Et donc c'est la première chose qui nous fait bouger, c'est le fait que quelqu'un puisse, un financier, s'accaparer de terres, etc. Après l'industrialisation de la production laitière, qui du coup, en pleine crise laitière en plus, ces annonces étaient un prix bas, un prix low cost du lait, alors que nous on revendique un prix rémunérateur pour pouvoir vivre du métier. On est d'abord des producteurs d'aliments, et dans ce projet d'usine, c'était le lait, quelque part, on s'en fout. C'est pas la première chose qu'on va produire, c'est plutôt le lisier qu'on va transformer, et à grand coup d'argent public encore une fois, pour financer un méthaniseur, et pour y mélanger aussi des bouts d'épuration, d'usine, avec des métaux lourds, etc. Et du coup, capter de l'argent public pour en faire de l'argent pour enrichir une personne, quoi. Donc c'est ça qui nous a fait lever par rapport à ce type de projet, et le fait que du coup ça allait donner le tempo dans les campagnes par rapport à un prix du lait qui serait, il a annoncé, avec 200 euros et mon méthaniseur, moi il n'y a pas de problème, je peux vivre de la production laitière, alors que nous on revendique plutôt des 40 centimes du prix du litre de lait pour pouvoir vivre correctement du métier, quoi.
Alors Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédération paysanne, s'est exprimé sur le fait que les sanctions réclamées étaient un moyen de faire taire l'opposition en tapant sur le porte-monnaie. Pourtant, la préfecture a condamné aussi la ferme à des sanctions pour avoir dépassé le nombre de vaches autorisées. Des enquêtes publiques ont été réclamées par la ministre de l'écologie à l'époque. Qu'est-ce qui permet de croire à une répression syndicale quand on voit qu'il y a quand même un soutien, peut-être est-ce un soutien double jeu, mais un soutien de l'État à cette cause ?
Non, à chaque fois qu'on a alerté notre ministre de tutelle, le ministre de l'Agriculture, qui était à l'époque Le Foll, on a eu une fin de non-recevoir. On a bien senti dès le début qu'il y avait une protection au lieu du ministère de l'Agriculture. On a même parlé à un moment, et c'est Novicène, l'association aussi, qui lutte, hein, de riverains, qui lutte contre ce projet qui n'est plus un projet. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le méthaniseur aujourd'hui qui est installé. Et on a bien senti, et dans toutes les condamnations et les poursuites qu'on a pu avoir, sur, en tout cas sur ce territoire et ce département de la Somme, une bienveillance de la justice par rapport au fait que Ramery et son projet est complètement illégal. Au départ, il y a un permis de construire pour 500 vaches. Or, il y a 900 vaches ou peut-être 1000 vaches qui sont dans les bâtiments. Et donc, l'État ferme les yeux, la justice ferme les yeux. Et d'un côté, un syndicat représentatif, avec des citoyens aussi, on n'est pas les seuls derrière à bouger là-dessus, qui revendique un autre modèle d'agriculture, qui sait que si on laisse faire ça, ça va engloutir et ça va industrialiser encore plus l'agriculture. Alors on nous dit qu'il faut une mutation dans l'agriculture, l'agriculture industrielle c'est fini, il faut une agriculture biologique, etc. Et on laisse ce type de projet se monter. Et donc on peut dire qu'il y a vraiment la justice, elle s'est mise en branle pour poursuivre jusqu'au bout et servir des intérêts financiers et servir des puissants. La démonstration, elle est faite, quoi.
Et concernant le volet de la répression syndicale, qu'est-ce qui permet de légitimer une telle position ?
Nous, c'était à chaque fois les actions de la Confédération paysanne. On s'en prend pas aux personnes, on s'en prend uniquement là à la ferme-usine, c'était un démontage symbolique, quoi. C'était pour alerter, parce que de toute façon, si on y allait simplement manifester, ça bouge pas. Tandis que si symboliquement on démonte, on bloque le chantier, on va par exemple au siège social de Ramerie pour alerter notamment aussi les salariés de Ramerie et aller les titiller aussi chez eux, la société Ramerie, voilà pourquoi on a bougé, que c'est légitime, un peu comme aujourd'hui on trouve légitime que les cheminots bougent, fassent grève, etc. Enfin, c'est quelque part notre droit de grève, nous, à lutter contre ce type d'installation, quoi.
Et alors aujourd'hui, où en est la mobilisation ? Est-ce que le monde agricole a tendance à s'organiser pour contrer ce genre de projet ? Est-ce qu'il y a un soutien de l'opinion publique, des citoyens assez conséquent ?
Un soutien de l'opinion publique, oui. Des citoyens en masse, je pense que... Enfin, on l'a bien vu lors des procès. Il y a eu beaucoup de monde. Par contre, du monde agricole, c'est quand même assez décevant. Aujourd'hui, peu de paysans, pour X raisons, ne bougent pas et ne voient pas le danger par rapport à ces usines qui se développent, pas qu'ici dans la Somme, hein, un peu partout. Et en tout cas, le fait que on peut poser un sujet qui est quand même important, l'industrialisation de l'agriculture, le fait qu'il y a derrière, il y a des emplois qui sont menacés. Et ce qui était intéressant, notamment dans ce combat, c'est la convergence des luttes entre des citoyens qui ne veulent pas de ça à côté de chez eux, pour des raisons, d'abord, des raisons personnelles. Et on a vu l'évolution, notamment, des militants de Novicène, mais qui ont quand même constaté qu'il y avait un problème, notamment avec l'industrialisation de l'agriculture, l'alimentation, le bien-être animal, les pesticides, etc. Et donc, les choses quand même avancent par rapport à ça, mais c'est vrai que le monde agricole est quand même en retrait par rapport à ça.
Alors, il y a des employés, notamment licenciés, qui ont témoigné de la surexploitation aux 1000 vaches. Je cite, « Dans le troupeau, il y a au moins 300 vaches qui boitent. Elles sont maigres. Elles ont les ongles trop longs ou des sabots qui pourrissent. Elles marchent à longueur de journée dans leurs excréments. D'habitude, on nettoie tous les deux jours ce type, dans ce type d'élevage-là. C'est tous les 15 jours. Les vaches sont très sales. » Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire condamner la ferme-usine pour la maltraitance animale ?
Alors là, c'est le témoignage d'un salarié, hein, qui a pas, son contrat n'a pas été renouvelé. En tout cas, il faudrait que les services de l'État, hein, nous, on est régulièrement contrôlés sur nos fermes. On a l'impression qu'il y a le deux poids deux mesures. Il y a une équipe qui a été mise en place de vigilance par la préfecture. Et force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de visite, à part les services de l'État. Ils nous disent que tout est conforme. Il y a eu un rapport d'expertise que j'ai lu d'un vétérinaire indépendant, truffé de non-sens pour quelqu'un qui connaît l'élevage. En tout cas, nous, on l'avait pointé dès le début. C'est que de l'élevage, il faut s'en occuper. Il faut beaucoup de monde. Et la concentration d'animaux, ça apporte beaucoup de problèmes au niveau sanitaire, la concentration. Et que Ramerie joue les économies, hein, donc il n'y a pas assez d'employés par rapport au nombre de vaches. Derrière, les vaches sont mal entretenues et il y a des gros problèmes sanitaires depuis que cette ferme est mise en place, quoi. Hein.
Alors Lucien, dans sa revue de presse tout à l'heure, parlait de Terre en Fête, qui est une festivité agricole qui se déroule à Arras, et il citait Jean-Bernard Bayard qui disait « Je suis paysan et j'en suis fier ». Bon, j'imagine que tu pourrais reprendre exactement la même phrase, pourtant j'imagine également que vous n'avez pas du tout la même conception de la paysannerie. Et si je parle de ça, c'est aussi pour le rapport aux animaux dont on est en train de parler, et à la bienveillance qui serait de mise vis-à-vis des bêtes qu'on élève. Donc, quelle est ta conception, toi, de la paysannerie et de l'élevage ?
En tout cas, moi, je ne conçois pas qu'on puisse entasser des centaines et des centaines de vaches. Enfin, moi, sur notre ferme, on a une cinquantaine de vaches. On est à deux à s'en occuper. Et on sait que, je le rappelle, la concentration, c'est problématique, quoi. Donc, Jean-Bernard Bayard, je le connais bien, il revendique le mot paysan, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes valeurs du métier de paysan. Lui, il n'ose plus le dire, mais il l'aurait dit il y a quelques années, il se revendiquerait plutôt agri-manager, chef d'entreprise. Et certes, on doit gérer nos fermes, mais d'abord on travaille de la terre, on travaille donc avec du vivant, on travaille des animaux. Et on ne peut pas concevoir de gérer des animaux comme on pourrait gérer de l'industrie lourde. Ça n'a rien à voir du tout.
Donc l'autre volet de la souffrance, c'est celle liée aux conditions de travail. Tout à l'heure, l'employé citait la souffrance des animaux, mais les employés souffrent aussi des conditions de travail. Travailler de 4 heures à 14 heures et de 14 heures à minuit, je crois. Voilà. Entre autres, c'est quoi l'avenir du métier d'agriculteur dans ces conditions-là? Et d'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est encore être agriculteur ou agricultrice?
Non, mais de toute façon, sur cette ferme, cette usine, c'est pas des agriculteurs, hein, c'est un gérant. C'est un financier qui est propriétaire, qui a mis un gérant salarié. Et derrière, c'est des salariés qui s'occupent de faire fonctionner cette usine, comme on ferait fonctionner une chaîne dans une usine, quoi. Hein, donc c'est la traite trois fois par jour. On conduit les animaux comme... tout est compté... et tout est fait pour qu'il y ait le minimum de salariés sur cette ferme pour qu'elle coûte le moins cher possible. Et donc ça n'a rien à voir la conception qu'on peut se faire ou que les citoyens peuvent se faire d'un élevage et du respect que les hommes peuvent avoir par rapport aux animaux. De toute façon, si on maltraite les animaux, si ils sont pas dans des bonnes conditions, je rappelle aussi que sur cette ferme, les vaches ne sortent jamais. Ils sont enfermés 365 jours par an. Ils naissent dans des bâtiments et ils vont partir ou mourir là ou partir dans les abattoirs sans jamais avoir bouffé un grain d'herbe. Ils sont nourris de manière industrielle. Et aujourd'hui, c'est une agriculture complètement du passé, ça. Aujourd'hui, on ne veut plus les citoyens, mais aussi le monde agricole est en train de faire une mutation, mais pas tout le monde, vers un autre modèle. Ce modèle qu'on nous vantait dans les années 70, hein, moi j'ai fait une formation agricole... à Genève, où il fallait vraiment industrialiser, utiliser tout ce qui était possible de nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est complètement une agriculture du passé, quoi.
Et alors, ce serait quoi l'agriculture du futur ?
L'agriculture du futur, c'est une agriculture d'abord qui emploie, qui respecte la nature, qui respecte tout ce qu'on a laissé de côté pendant des années. On pensait que c'était pas nécessaire, la biodiversité, etc. On sait qu'aujourd'hui, pas plus tard, on parle du glyphosate, on parle d'un effondrement aujourd'hui des abeilles, etc. On sait qu'on peut plus travailler sans ça. Et donc, c'est cette agriculture qui est en train de renaître aujourd'hui. Donc, avec notamment des néo-ruraux hein, qui arrivent aussi en agriculture et des citoyens qui aspirent qui comprennent de plus en plus ce qui se passe derrière. Ces modèles industriels d'agriculture qu'on nous a quelque part imposés. Et derrière, il faut savoir quand même que c'est l'agroalimentaire. C'est toujours pour avoir moins cher, pour toujours optimiser au maximum, de pousser les agriculteurs à investir dans des techniques, etc., pour avoir, par exemple, le prix du lait le moins cher, pour faire tourner les usines comme Danone et Lactalis et compagnie. Et donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais il faut encore du temps et il faut aussi un appui très fort des citoyens. De plus en plus sont au courant de ce qui se passe, et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, quoi.
Alors, la ferme des 1000 vaches, on l'a vu, pousse à l'extrême le modèle de la production industrielle. D'ailleurs, on ne peut plus vraiment dire que c'est une ferme, mais plutôt une usine. On peut également se demander si c'est viable économiquement, certes pour eux, parce qu'ils produisent aussi du méthane, mais plus largement pour les autres agriculteurs, avec l'aggravement de la crise du lait, ça risque de devenir de plus en plus dangereux. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la progression de ce modèle? Est-ce que ça se multiplie? Est-ce qu'il y a de plus en plus de fermes usines? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quand même un coup d'arrêt?
Non, malheureusement, aujourd'hui, on a plusieurs modèles qui cohabitent. Il y a encore des fermes familiales un peu comme la nôtre. Sur 30, moi, j'ai 30, on a 30 hectares et une petite cinquantaine de vaches. Ce qui nous environne de plus en plus, c'est des fermes mais qui grossissent de plus en plus. Donc Ramry, bien sûr, c'est un avatar avec un financier qui arrive dans l'agriculture. Et après aussi, on a un modèle qui est en train d'émerger, c'est l'agriculture notamment biologique. Une agriculture avec des citoyens qui prennent de plus en plus parti, comme les AMAP, les circuits courts, etc. Et on a l'impression qu'on va pouvoir cohabiter longtemps comme ça, et non, parce que l'agriculture industrielle, comme Ramry, elle est prédatrice de tous les autres systèmes, quoi. Et donc, il n'y a pas de cohabitation possible. J'en reviens au glyphosate, quand on traite, ben on en met partout, on en met dans l'environnement. Et il y a un moment, il faut falloir donner un coup d'arrêt. Donc il y avait ce projet de loi, on en espérait beaucoup, qui ne traite pas du tout justement de l'industrialisation de l'agriculture. Si on y prend en garde, cette agriculture qui est prédatrice et qui veut tout dominer, qui est surtout financière, elle peut ne plus laisser de place à cette agriculture de type familial, de type biologique, etc., qui répond à une attente aujourd'hui de la société.
Donc ça fait le lien justement avec la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur. Comme tu l'as dit, il y a eu un espoir, et notamment parce qu'il y a eu avant ça tout un travail de consultation, les états généraux de l'alimentation. Je ne sais pas si tu as participé, mais comment ça s'est déroulé, l'élaboration de la loi ?
Alors moi, personnellement, je n'y ai pas participé. Donc il y avait des débats au niveau national, donc où tout le monde était invité. Ce qui avait été annoncé, c'était quelque chose de... une concertation grand public. Alors nous, il y avait les états généraux ici dans la région, où on les a boycottés parce que c'était mené par la Chambre d'agriculture, donc la FNSEA, et c'était circulé, il n'y a rien à voir, tout va très bien chez nous. Donc ils ont été visiter des usines, ils ont été... Voilà, donc on n'a pas participé, on a fait un communiqué de presse et une conférence de presse là-dessus. Néanmoins, au niveau national, on y a cru beaucoup. La Confédération, elle s'y a investi. Le point de départ, c'était il faut changer de modèle agricole. Notamment, il y avait le gros point, c'était le revenu agricole. Il faut savoir qu'il y a un tiers des paysans aujourd'hui qui vit avec moins de 350 euros par mois. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres de la MSA, notre protection sociale. L'agriculture va très mal depuis des décennies, et on pensait vraiment que ça allait être une loi comme des lois d'orientation agricole on a pu avoir du temps de Le Pain sec, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir dans les années 90. Et pour en finir, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Il y a eu Macron qui est venu à Rungis, qui a fait un discours qui laissait entrevoir quand même beaucoup de choses, où on était vraiment... nous, la Confédération paysanne, dans l'euphorie, en disant ok, ça va vraiment, notamment pour les relations commerciales avec les contrats, etc., où ça allait être gravé dans le marbre que les paysans ont droit à un revenu, etc., que les relations commerciales entre l'agroalimentaire et entre la grande distribution. Et tout ça, il n'y a rien du tout, c'est que des mesurettes. Donc on est très déçus. Ça a été voté à l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours. C'est en débat au Sénat. Il y a quelques petites avancées. Notamment par exemple sur les abattoirs mobiles, puisqu'il n'y a pratiquement plus d'abattoirs en France, et on revendique, si on veut des circuits courts, qu'on puisse abattre à la ferme dans des bonnes conditions et non transporter des animaux sur des centaines de kilomètres. Mais vraiment, on est déçus. Il y avait l'histoire du glyphosate qui devait être mis aussi dans cette loi, mais non, c'est pas grave, ça ira ailleurs. Donc vraiment, on est quand même déçus de cette loi.
Alors la principale question, c'est celle de l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. L'idée serait de rétablir la balance dans un rapport de force qui écrase les agriculteurs. La loi prévoit une construction du prix à partir du coût de production, le relèvement du seuil de revente à perte, un meilleur encadrement des promotions dans les magasins, entre autres. Est-ce que c'est suffisant pour permettre un meilleur partage de la valeur produite ? Si pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un changement ?
Il faut qu'il y ait plus de force publique, on va dire. Parce que depuis des années, on a tout démantelé. On a démantelé, par exemple, les quotas laitiers. Donc aujourd'hui, on peut produire du lait à outrance. Donc il n'y a plus de contrôle public et il y a un laisser-faire aujourd'hui entre les agriculteurs et l'agroalimentaire. Et on pèse rien du tout, nous, on est moins de 500 000 en France. C'est renvoyé notamment dans les filières, dans les interprofessions. Et on sait aussi que nous, on fait du lobby, mais face au lobby des puissants que sont Besnier, les grandes fortunes, on pèse rien du tout. Et s'il n'y a pas la main de l'État pour réguler, pour obliger à faire des conventions, aujourd'hui, on a des contrats avec l'agroalimentaire, c'est eux qui imposent le tempo, c'est eux qui imposent les prix, c'est eux qui imposent tout dans les contrats, et donc rien de nouveau pour demain dans cette loi, pour saisir un juge, c'est très compliqué, ou il faudra des médiateurs comme on en a déjà aujourd'hui, donc on sait qu'on ne va pas avancer par rapport au prix agricole, et qu'il n'y aura pas de rééquilibrage, ou vraiment à la marge par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Alors tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu un recul qui a tout de même surpris et dont on a beaucoup parlé dans les médias, c'est l'absence d'interdiction du glyphosate qui est renvoyé à 2021. À l'inverse, on a interdit le dioxyde de titane. Bon, il y a quelques petites mesures quand même pour améliorer la qualité des aliments, même s'il y a beaucoup de produits chimiques qui resteront non interdits et qui figureront toujours sur la liste des ingrédients. Concernant le glyphosate, il y a quand même un gros soutien de l'opinion publique, enfin, contre le glyphosate, plutôt. Les gens se rendent compte maintenant du danger que ça représente pour la santé et pour eux-mêmes. D'abord, comment on peut interpréter ce recul, et aussi, est-ce qu'on pourrait pas dire que là-dessus, le gouvernement, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux liés au risque sanitaire et de la volonté des citoyens, de la société civile.
Le glyphosate, ça montre vraiment un problème qui en cache plein d'autres en agriculture. Un produit qui est utilisé depuis 30 ans, ça fait maintenant 10 ans que des experts nous alertent du danger de l'utilisation, d'abord pour les utilisateurs, les paysans qui l'utilisent. On l'a retrouvé beaucoup en jardinerie aussi, il est interdit aujourd'hui. Et le fait qu'on ne pourrait pas s'en passer, et donc là on a vraiment un exemple du poids des lobbies, c'est-à-dire la FNSEA avec ses branches céréalières, etc. Donc les agri-managers, ceux qui cultivent sur des grandes surfaces, qui veulent imposer à l'ensemble de la société. Là, on parle quand même de santé publique et des ministres qui ne savent pas trancher. Je ne pense pas que c'est Travers, notre ministre de l'Agriculture, qui devrait trancher ce problème-là. Ce serait plutôt le ministre de la Santé. Et de dire aujourd'hui, s'il y a danger, on arrête le glyphosate. Et je vais dire, moi, je n'utilise pas, je ne suis pas en agriculture biologique. On peut se passer du glyphosate. Bien sûr, il faut travailler ses terres, il faut des fermes à taille humaine, etc. C'est vrai que c'était la solution de facilité, c'est ça qu'il faut dire aussi, de traiter avec un herbicide total sur des superficies extrêmement importantes. Mais il y a un moment, quand la santé publique elle est en jeu, je pense qu'il faut savoir trancher et dire non par rapport au lobby que représente la FNSEA.
Très bien, bon, c'est là-dessus qu'on va conclure. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon, j'allais dire joli, je ne sais pas si c'est très joli ni réjouissant. Au final, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ?
Non, je pense que, comme je l'ai plusieurs fois redit, les paysans seuls ne peuvent pas changer. Même s'il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui ont changé leurs pratiques, qui sont notamment ici dans la région, parce qu'on a une concentration de population, on peut facilement faire des circuits courts, on peut facilement faire du bio, etc. Mais si on n'a pas le soutien massif des populations, on n'arrivera pas à entraîner le reste de l'agriculture vers des modèles plus résilients, et puis tourner le dos l'industrialisation, qui est le combat de la Confédération paysanne, quoi.
Eh bien, merci Antoine, merci Luc.
Merci pour l'invitation.
Très, très riche échange qui nous permet de mieux saisir les enjeux concernant l'agriculture paysanne. Alors, notre émission touche à sa fin. On remercie nos auditrices et nos auditeurs de nous écouter. quelques informations pour terminer. Alors justement, à propos d'agriculture paysanne, on peut signaler le cycle de 3 émissions que Micro-Rebelle a consacré à cette thématique. Il s'agit d'un échange avec Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui s'est engagé toute sa vie dans la défense et la promotion de l'agriculture paysanne et a contribué à la mise en œuvre du réseau régional des organisations qui s'inscrivent dans cette sensibilité. Alors ce sont des organisations telles la CONF, la Confédération Paysanne, bien sûr, mais également Avenir, le CEDAPA, Terre de Liens, la DEARN ou encore les AMAP, qu'Antoine a évoqué dans son échange avec Luc. Cet échange exceptionnel avec Jean-Luc Malpeau est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'agriculture paysanne en région, ainsi que sur les enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. C'est donc un bon complément de notre entretien. Par ailleurs, pour éclairer la réalité de l'agriculture paysanne, ce cycle de 3 émissions donne également la parole à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des petites fermes, à des paysans nouvellement installés, ainsi qu'à des paysans qui viennent juste de partir en retraite. N'hésitez donc pas à écouter ce très beau cycle de 3 reportages consacrés à l'agriculture paysanne. Autre information, nous avons terminé cette semaine le cycle radiophonique « Le fond de l'air » et « Mai 68 ». Il s'agit d'un cycle de 4 émissions co-réalisées avec Paul Masson, militant de l'éducation populaire. Ces émissions ont pour objectif premier de donner des clés de compréhension de ces événements qui ont marqué l'histoire sociale française. Quelle fut la réalité de mai 68? La vision historique est-elle juste? Les événements ont-ils été mystifiés? Nos représentations sont-elles dictées par des idéologies politiques? Comment mai 68 a pu infuser dans la société française? Quels ont été ses effets? Montrer que mai 68 n'a pas surgi ex nihilo, qu'il s'inscrit dans une dynamique internationale, au cœur d'une géopolitique en plein bouleversement, qu'il n'est pas qu'un mouvement étudiant, mais aussi une révolte prolétarienne, qu'il ne s'est pas arrêté au 31 mai, etc., etc. L'ensemble de ce cycle est donc disponible sur microrebelle.fr, en podcast ou en téléchargement. Et puis enfin, un petit rappel, n'hésitez pas à nous solliciter pour des reportages, des chroniques, des débats radiophoniques. Nous allons terminer avec de la musique libre. Je vous dis très bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine dès 18h. Luc, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Super Invaders, c'est un groupe d'androïdes sortis d'un trou noir pour produire un surf rock propre à détruire le monde. Le titre, c'est Black Hole Bending the Fabric of the Universe.
Somewhere between here and the edge of the universe lies the answer.
Maintaining speed and course. Apogee 027.324. 20 million miles.
Positive track green 140273. Yes, we have that.
UFO beyond interceptor range, heading for Earth.
Roger, we confirm orbital reference. Speed correction. Sol 0 points. And
I have green on 1, 2, and 3. Sol 0.78. Range 17 million miles. Speed destruct negative.
Inescapable singularity, spare on the master.
Micro-Rebelle Hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur les ondes de nos amis de PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.